de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Tout faire pour éviter le raz-de-marée Omicron en pleine cinquième vague. Le conseil scientifique s'inquiète des semaines à venir et nous appelle à plus de précautions pour les fêtes. Détail dans un instant. Emmanuel Macron sur TF1 demain soir, 2h30 d'interview. Ses opposants crient au scandale et lui demandent de déclarer sa candidature. Et avant la présidentielle, la Cour des comptes dispense ses conseils de bonne gouvernance. Nicolas, ce sera le sujet du grand entretien.
Avec le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, à notre micro avec Léa. Dans une vingtaine de minutes, le standard est ouvert. Les standardistes vous attendent. 01 45 24 7000.
Pensez à récupérer le petit à l'école ce midi. Pas de cantine, pas de goûter aujourd'hui dans de nombreux établissements. C'est la grève des animateurs périscolaires qui vivotent sans garantie. Témoignage à suivre. On entendra aussi des magistrats qui n'arrivent plus à faire face aux nouvelles lois. Ils demandent une pause dans les réformes. Des toutes jeunes filles dont les premières relations amoureuses sont empreintes de violence et ça n'est pas exceptionnel. Et puis de la rumba congolaise qui devrait faire son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO aujourd'hui.
France Inter.
Au Royaume-Uni, c'est déjà le branle-bas de combat. Le variant Omicron a fait un premier mort. Il sera majoritaire dans les tout prochains jours. Et comme tout ce qui se produit de l'autre côté de la Manche finit toujours par se reproduire chez nous, voici donc la crainte de la sixième vague, redoutée par le Conseil scientifique. Alors que la cinquième vague n'a pas dit son dernier mot, un millier d'hospitalisations par jour en moyenne. Bonjour Solène Lehen.
Bonjour.
Sans même parler d'Omicron, le Conseil prévient dans son dernier avis, si on ne fait rien, on va dans le mur.
Oui, dans quelques jours, quelques semaines, on pourrait atteindre plus de 2000 admissions de malades du Covid par jour à l'hôpital si la dynamique de l'épidémie reste la même. Alors que recommande le Conseil scientifique ? Pas le confinement, pas le couvre-feu, mais au moins éviter, je cite, les clusters géants qui accéléreraient cette dynamique. Déjà, depuis, contre les éventuels clusters géants, le gouvernement a décidé de fermer les discothèques pendant un mois et imposer sur les marchés de Noël le pass sanitaire et le masque.
Et pour les fêtes, le Conseil nous appelle tous à redoubler de prudence.
Oui, c'est ce que disait déjà Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, il y a quelques jours devant le Sénat.
Les fêtes pourront avoir lieu, mais il faut probablement les entourer, c'est-à-dire limiter probablement quand même le nombre de convives, se faire faire un test antigénique le vendredi avant Noël, se faire faire un autotest, c'est 5 euros avant d'aller déjeuner en famille, bien vérifier que s'il y a des personnes âgées, il y a quand même une couverture vaccinale, etc. Enfin, tout ça, c'est du bon sens.
Testez-vous avant les fêtes et même si vous êtes vacciné, insiste Jean-François Delfraissy.
Les vaccinés peuvent porter le virus, donc c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne doit pas faire de tests antigéniques.
Autre suggestion du Conseil scientifique, prêter une attention particulière aux plus vulnérables dans les prochaines semaines, personnes âgées, en EHPAD ou non, attention aussi aux personnes précaires et isolées. Et puis, dernier conseil au gouvernement, renforcer les capacités hospitalières pour faire face à l'afflux de malades. Sur le terrain, les plans blancs sont déjà déployés et dans certains services à l'hôpital, les soignants commencent à faire une croix sur leur congé de Noël.
Et autre recommandation du Conseil scientifique, double la dose de rappel de Moderna, ce serait plus efficace. Au Royaume-Uni, 42 Covidés parmi les joueurs du championnat de foot. Manchester reporte son match ce soir. Comme en Angleterre, le Danemark s'attend à ce que le variant Omicron devienne majoritaire au moins à Copenhague dès cette semaine. Et la Norvège resserre ses contraintes. Plus d'alcool dans les bars et les restaurants. Maintenant, c'est sérieux, dit le Premier ministre qui redoute une saturation des hôpitaux. Enfin, la Chine compte un premier cas d'Omicron, elle aussi. Un ressortissant étranger qui vient d'arriver, repéré par un système de surveillance qui ne laisse absolument rien au hasard. Mais malgré tout, Pékin n'est pas tranquille à moins de 2 mois des Jeux d'hiver. Sébastien Berriot y est pour France Inter.
Le malade est arrivé par avion jeudi dernier dans la ville portuaire de Tianjin, à 140 km de Pékin. Comme tous les autres voyageurs venant de l'étranger, il devait être placé en quarantaine dans un hôtel. Mais le test Covid s'est révélé positif et 4 jours plus tard, hier donc, les analyses complémentaires ont permis d'identifier le variant Omicron. Le malade a aussitôt été hospitalisé et placé à l'isolement. Malgré une politique de restrictions sanitaires drastiques, la Chine savait qu'elle ne pourrait pas échapper au nouveau variant, mais cette annonce constitue un sérieux coup de pression pour les autorités à 2 mois des Jeux Olympiques. Pour le moment, la Chine parvient à limiter le nombre de cas à quelques dizaines par jour, mais l'arrivée du nouveau variant pourrait changer la donne. Le professeur Jian Wenhong, l'un des spécialistes du Covid les plus réputés en Chine, laisse entendre que dans le pire des scénarios, le pays va peut-être devoir se préparer à encore plus de contrôles dans un quotidien déjà très compliqué pour les Chinois. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Un variant qui fait de nouveau baisser les bourses à Tokyo ce matin comme à Wall Street et à Paris hier.
Il est 8h06, Florence, 2h30 d'antenne en prime time.
L'interview d'Emmanuel Macron diffusée demain soir sur TF1 agace prodigieusement les candidats à la présidentielle car lui ne l'est pas encore officiellement. Valérie Pécresse a donc saisi le CSA, d'autant qu'elle devait elle-même répondre aux questions de BFM TV au même moment. L'émission a du coup été reportée. À 4 mois du premier tour de la présidentielle, ça ne peut plus durer, disent tous les opposants au président. Il doit se déclarer maintenant, dit par exemple Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord.
Le candidat Macron, parce que c'est le cas, je l'avais même dit moi-même il y a déjà plusieurs mois quand il est venu à Roubaix pour nous vendre sa soupe sur ses mesures sécurité, sur le fameux Beauvau de la sécurité. Il fait ses états généraux de la justice pour parler justice comme un candidat sans être candidat et là il va sur TF1. Enfin ça suffit, il faut que son temps de parole soit décompté et puis au-delà du temps de parole, il y a un sujet quand même, ça s'appelle les comptes de campagne. Emmanuel Macron, candidat, fait candidat aux frais de la princesse, ses déplacements en région, ses déplacements... Mais nous, on est astreints, cette discipline-là, en tant que parlementaire, de faire la différence, nous-mêmes, dans nos déplacements, là, en tant que député, et en tant que candidat député. Sinon, on se fait attraper par la Commission nationale des comptes de campagne. Je crois pas que monsieur Emmanuel Macron soit au-dessus des lois.
Il faut qu'il se présente, c'est
mais
ça
oui, parce faut que... qu'il se présente, il faut qu'il vienne dans le débat public, il faut qu'il vienne dans l'arène publique, il faut qu'il vienne se confronter. Parce que c'est ça, la démocratie, c'est de confronter les idées, pas de faire une interview enregistrée avec TF1. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires?
Hugo Bernalicis, député la France Insoumise, avec Jean-François Aquili. C'est la fin pour 600 salariés de France Loisirs. Seuls 14 des 122 boutiques de l'enseigne seront reprises et 138 emplois sauvés. France Loisirs était en liquidation judiciaire depuis le mois d'octobre. Ils s'occupent des enfants des écoles à l'heure du déjeuner, avant la classe le matin, puis au goûter pour ceux qui restent à l'étude. Les animateurs périscolaires massivement appelés à la grève aujourd'hui. Salariés des mairies, ils dénoncent la précarité de leur statut et la maigreur de leurs revenus. Hugo Serrano, 24 ans, multiplie les CDD depuis 5 ans à la Seine-sur-Mer avec un salaire au SMIC.
Notre situation, c'est plus vivable en fait, parce que à des CDD de un an renouvelable pour acheter une maison, pour acheter une voiture, les crédits, à moins qu'on ait un banquier cool qui comprend la situation, mais sinon c'est très compliqué. Nos conditions aussi, c'est pas top, on est en sous-effectif, mais vraiment de beaucoup. Je sais que les temps méridiens, on s'oriente vers 50 animateurs en moins, donc c'est difficile. On a des collègues que quand ils prennent des congés, on est obligé de fermer les périscolaires parce qu'on peut pas les remplacer. Et après, quand on leur en parle à la mairie, c'est pas du mépris, mais on n'est pas loin de ça. C'est qu'ils nous voient comme des clowns qui sont là pour amuser les enfants. Et que de toute façon, on s'en fout de toi, tu vas partir à un moment ou à un autre, quoi. Donc c'est pas facile.
La colère de cet animateur périscolaire au micro de Sophie Glotin de France Bleu Provence. Une centaine de rassemblements est prévu aujourd'hui un peu partout en France. Autre appel à la grève lancé pour ce week-end de départ en vacances à la SNCF sur le réseau Sud-Est. La CGT, Sudrail et l'UNSA réclament une augmentation générale des salaires. Eux, c'est pour demain. Magistrats, greffiers, avocats appellent à la mobilisation générale pour la justice. Ils veulent des moyens pour travailler et ne pas sombrer dans le burn-out et réclament aussi une pause dans les réformes. Laurélie Carrive, chargée d'appliquer le droit eux-mêmes, ne s'y retrouve plus dans les textes de loi.
Justice des mineurs, violence conjugale, violence sexuelle, pour ne parler que du pénal. Ces dernières années, les réformes se sont succédées à vitesse grand V avec en bout de course des magistrats à la peine pour garder la cadence.
Ne serait-ce que le fait d'arriver à être à jour dans ses connaissances, en fait.
Jean-Baptiste Bladier préside la Conférence nationale des procureurs de la République.
La production législative est tellement foisonnante, tellement rapide, que ça devient parfois extrêmement compliqué pour un magistrat d'être sûr du droit qu'il doit appliquer à intenter. Ça paraît un peu fou de dire cela, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous ne travaillons plus sans avoir en permanence sous les yeux, le site notamment Légifrance, pour être sûr d'avoir sous les yeux la dernière version du texte de loi, parce que même les éditeurs juridiques n'arrivent plus aujourd'hui à suivre la logorée législative.
Les logiciels non plus n'ont pas le temps d'être mis à jour. Certaines tâches doivent donc être faites manuellement. Ou comment perdre du temps quand on en manque déjà cruellement? Pour Jean-Baptiste Bladier, donner un coup de frein aux réformes ne résoudra pas tout, mais donnera un peu d'air aux magistrats en attendant davantage de moyens.
À partir du moment où vous êtes dans un métier où ce qui est votre boussole ne cesse de bouger en permanence, c'est effectivement une source d'angoisse et d'inquiétude supplémentaire.
Il espère en tout cas que les États généraux de la justice aboutiront à un plan de modernisation à la hauteur du mal-être exprimé aujourd'hui par la profession.
5 sites de vidéos porno dans le viseur du CSA, des plateformes qui ont pignon sur web comme Pornhub, Tukif ou encore Xvidéo. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel leur donne 15 jours pour empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu sous peine de saisir la justice pour les bloquer. Et est-ce l'influence de ces vidéos largement accessibles ? Les premières relations amoureuses, en tout cas, sont souvent entachées de violence. Si l'on en croit l'enquête menée par une newsletter féministe, Les Glorieuses, auprès de ses abonnés de 12 à 24 ans. Insultes, relations sexuelles non consenties, elles sont une sur deux à en témoigner. Sans parler, Faustine Calmel, des humiliations, du chantage et parfois des menaces.
Agathe sort du lycée avec sa bande de copines, elle a 16 ans et déjà une histoire de relation toxique à raconter.
C'était plutôt sur des « tu sors pas comme ça », j'avais pas le droit de parler à d'autres garçons. Il avait mis le mot de passe de mes réseaux sociaux aussi. Donc ouais, c'était un contrôle assez permanent. Bah, il gagnait parce que bah, je l'aimais.
Des histoires comme celle-ci, Anaïs en reçoit tous les jours.
On a un chat avec une jeune femme de 16 ans.
Elle est répondante au chat de l'association En Avant Toutes et accompagne les jeunes filles qui se posent des questions sur leur couple.
Là, elle évoque le fait qu'ils se voient un petit peu moins et que du coup, il lui fout la pression pour qu'elle puisse sortir alors que ses parents lui interdisent. Il lui donne des ordres, il lui met des pressions. Elle se sent oppressée par rapport à tout ça.
Au fil de cette conversation, celle que l'on appellera Eva explique que son partenaire exige qu'elle réponde à toutes ses envies. Des situations d'autant plus graves que ses premières relations sont fondatrices pour la vie conjugale.
Quand on vit des violences conjugales quand on est jeune, en fait après, on a plus de risques d'en revivre plus tard.
Louise Delavier est responsable des programmes chez En Avant Toutes.
Parfois justement quand on va avoir des enfants, quand on est marié, dans d'autres relations. Donc c'est très important d'agir déjà dès les premières relations violentes parce que sinon il y a un fort risque de reproduction de ces violences.
Ce que tente de faire l'association qui reçoit via son chat 400 demandes de contact chaque mois.
Faustine Calmel confie un enfant placé à un membre de sa famille plutôt qu'à un foyer d'accueil. Ne plus séparer les fratries, éviter les séjours à l'hôtel. Le sort des enfants de l'aide sociale à l'enfance au menu du Sénat aujourd'hui et demain. Projet de loi déjà voté à l'unanimité par l'Assemblée. Il pourrait être définitivement adopté en début d'année.
Il est 8h12. C'est une station de ski appelée à la fermeture définitive au centre de l'Espagne.
Le gouvernement de Pedro Sanchez l'a ordonné pour protéger l'environnement et parce qu'il y neige de moins en moins. Mais cette station, les Madrilènes y passent leur week-end. Elle est à 60 km de la capitale et les autorités locales, dans l'opposition, ont décidé de désobéir et d'ouvrir quand même pour la saison hivernale. Polémique sous les télésièges, c'est un reportage de Marie-Hélène Ballestero.
Faut-il privilégier l'emploi ou l'environnement alors que la station de Navacerrada souffre du réchauffement climatique ? La polémique reste intense au Puerto de Navacerrada. Même si les pistes sont restées fermées ce week-end à cause du mauvais temps, les Madrilènes comme Maider sont venues profiter de la montagne et de la neige. Que pensent-elles de ce débat ?
Ce serait bien de pouvoir skier, mais s'ils considèrent que c'est mieux pour l'environnement, on a d'autres endroits où aller faire du ski. Parfois, il faut un peu renoncer à ce que l'on aime pour protéger l'environnement. C'est bien de réguler un peu tout ça.
Maider est sensible aux questions environnementales qui ont mené le ministère de la Transition écologique à ne pas renouveler la concession des pistes. Raison invoquée, la pression touristique, le trafic automobile intense et le réchauffement climatique dont est victime la station. Le gouvernement central veut protéger cette zone située dans le parc naturel de la Sierra de Guadarrama, un espace de haute valeur écologique. Mais dans le magasin de location de ski Ventalia, Simon Mohamed rejette ses arguments. Il veut juste garder son travail.
On ne peut pas fermer ici. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin de travailler, de manger. S'ils ferment, où on va, nous ? Au chômage ? Eh bien, c'est non. Car s'ils ferment, on n'aura plus rien.
En attendant que la justice analyse le fond du dossier et tranche définitivement, les Madrilènes vont encore pouvoir skier à Navacerrada. La station a ouvert ses portes hier. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Enfin, la calligraphie arabe, le tiboudienne sénégalais ou encore la lutte sur échasses belges. Une quarantaine de traditions des 5 continents seront sacrées par l'UNESCO dans les 2 jours qui viennent pour entrer au patrimoine immatériel de l'humanité. Session très attendue par les habitants des deux Congo qui devraient voir inscrite la fameuse rumba congolaise au Marwaman.
C'est une consécration que les Congolais attendent depuis des années.
Oui, oui, absolument. Déjà, c'est une reconnaissance historique.
Jean-Claude Feignon, gérant du premier bar dancing de Brazzaville.
Aujourd'hui, il n'y a pas de Congo Brazzaville ou de Congo Kinshasa. Il y a la rumba congolaise. Et la rumba congolaise n'a pas de frontières.
Travaillez, prenez de la peine.
Brazzaville et Kinshasa, deux capitales séparées par le fleuve Congo. C'est là que la rumba a pris sa source il y a plus de 5 siècles. Depuis, elle a conquis le monde et les deux Congos ont mis leurs différends de côté pour défendre cette candidature.
Nous nous sommes vraiment battus depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui.
Catherine Katungu Fouraa, ministre de la Culture de la République démocratique du Congo.
Il était grand temps. La rumba qui est l'outil de cohabitation pacifique, de la réconciliation, et ça constitue un message de résolution même des conflits.
La rumba, musique festive et politique, comme cette chanson intitulée « Indépendance Cha-Cha ».
Indépendance Cha-Cha, tous oubliés.
C'est par ce titre, diffusé à la radio, que les Congolais ont appris l'indépendance de leur pays. Le 30 juin 1960, « Indépendance Cha-Cha », hymne anticolonial et premier tube panafricain.
Studio Nicolas, allons danser.
Quand vous voulez, merci Florence Paracuelos. Météo Tcha-Tcha, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Attention au brouillard, Marie-Pierre.
Oui. Pas beaucoup de visibilité pour danser ce matin, surtout le long de la Loire, Auxerre, à Strasbourg, au Val-de-Saône, mais aussi dans la région bordelaise et le long de la Garonne, sans oublier ces grisailles dues à l'anticyclone qui est positionné entre le Maghreb et la Scandinavie, et ces hautes pressions vont persister comme ça jusqu'à la fin de la semaine. En revanche, au sud d'une ligne qui relie les sommets des Vosges et du Jura, de l'ensemble du massif alpin au massif central en descendant sur le pourtour méditerranéen jusqu'aux Pyrénées à la Corse, vous avez une chance de voir le soleil se lever sous quelques gelées. Il fait moins 4 en Haute-Loire, moins 1 à Guéret, Toulouse ou Marseille, 4 à Strasbourg et Bayonne. Et il fait 11 quand même à Ouessant comme au Cap-Corse.
Et pas beaucoup de changements cet après-midi.
Non, sur les régions de la moitié nord et le Lyonnais, Nicolas, le ciel va rester souvent bien bas et gris, avec toujours des petites gouttes d'ailleurs près de la Manche à la Belgique, avec les sommets des Vosges et du Morvan ensoleillés. Sur le sud-ouest, ce sera plus ensoleillé que ce matin, mais ce sera mi-figue, mi-raisin le long de la vallée de la Garonne où les grisailles vont résister. Et côté du Mercure, au plus bas, il fera 3 à Bourg-en-Bresse, 4 à Nancy, 5 à Lyon et à Bourges, 8 au Havre, 10 à Lille, à Bordeaux, vous aurez 15 à Perpignan-Toulon et 17 à Bastia.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. France Inter, il est 8h17, géopolitique.